Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Un livre qui parle du malheur, celui de la violence des hommes, de la violence de la nature aussi. Un livre qui parle aussi du bonheur, qui peut être fugace, mais dont les miettes parsèment un chemin douloureux, comme autant de points de lumière auxquels se raccrocher. Un livre qui parle de l'enfance, si fragile, si délicate, si déterminante. Un livre qui parle des petites filles, des femmes et de leurs conditions. Un livre envoûtant qui émeut, qui tient en haleine et interroge. « Rien ne t'appartient », c'est le titre de ce roman édité chez Gallimard et j'ai le grand plaisir d'accueillir son auteur, Natacha Apana. Natacha Apana, bonjour.
Bonjour.
Avant toute chose, j'aimerais vous présenter à nos auditeurs parce que vous êtes étonnamment, vous n'êtes jamais venu à notre radio. On n'a pas eu ce plaisir. Vous êtes mauricienne. Vous descendez d'une famille, alors j'ai lu ça, je dois le dire, d'engagés indiens à la fin du 19e siècle. Alors, engagés indiens, ça signifie quoi ?
Les engagés indiens sont des indiens qui ont été, qui ont signé des contrats de travail à la fin, enfin ça a commencé au milieu du 19e, pour remplacer les esclaves dans les champs de canne. Donc, à l'abolition de l'esclavage, une grande partie des pays à ce moment colonisés par les Anglais et par les Français, donc là je parle de la plupart des îles de l'océan Indien, la plupart des îles des Antilles, l'Afrique du Sud également, donc se retrouvent sans main d'œuvre. Et l'Inde étant colonie britannique, décide donc d'organiser une sorte de migration du travail à échelle monumentale, puisque plus d'un million et demi de personnes sont concernées. Et donc ces personnes-là signent des contrats alors qu'ils ne savent pour la plupart pas lire. Et se retrouvent donc voilà, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, au Suriname, à l'île Maurice, en Inde, au Sri Lanka, à Madagascar, en Afrique du Sud.
Et sément un peu partout.
Partout, en fait. Pour travailler dans les champs de canne.
Et faisant souche.
Alors, faisant souche pour la plupart, en effet, puisqu'ils souvent, ils ne savaient pas où ils étaient. Parce que le grand tabou des Indiens, toujours, mais encore plus à cette époque, c'était de traverser l'eau. L'eau s'appelait le Kalapani, donc littéralement ça veut dire l'eau noire. Et donc souvent j'ai pensé que pour ceux qui vraiment faisaient cette traversée-là, les conditions devaient être assez terribles pour eux, pour le quotidien, ou l'envie aussi de mener une autre vie devait être très forte. Et en tout cas, à l'île Maurice, à La Réunion, aux Antilles, ils ont fait souche parce qu'ils n'avaient tout bonnement aucun moyen de rentrer.
Je suis en train de, en vous écoutant, je me disais finalement c'est le problème de tous les immigrés qui ont à la fois peur et qui en même temps sont poussés par la nécessité.
Je ne sais pas si je peux comparer les deux parce que c'était une époque très différente de maintenant, mais je trouve ça assez ironique que l'histoire parle toujours de bateau, parle toujours de traversée, parle toujours de quelque chose qui nous pousse dans le dos et qui nous fait avancer. Il me semble aujourd'hui en effet qu'il y a des histoires de désir et des histoires de nécessité, mais je fais très attention, si vous voulez, à ne pas généraliser le visage de l'immigré, du migrant, comme on dit, parce que il me semble que quand on parle de ce migrant-là, il a toujours le même visage, le même désir, la même ambition, alors que je crois que il y a multiples ambitions, multiples désirs, et multiples raisons aussi de venir vers le nord, vers l'ouest.
Oui, c'est vrai que c'est un autre sujet dont j'aimerais bien parler avec vous, mais on va revenir à votre livre. Parce qu'en même temps, en vous écoutant, je me disais, est-ce qu'en ce moment, dans certains pays, Émirats Arabes Unis par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des travailleurs qui viennent d'Inde en particulier ?
Oui, il y a des travailleurs pauvres qui viennent d'Inde, qui viennent des Philippines aussi, et du Bangladesh.
Oui, d'accord, oui. Voilà, alors donc, Voilà, nous avons parlé de votre famille. Vous êtes venu en France en 99. Est-ce que ça veut dire que vous parliez français déjà?
Oui, moi j'ai toujours parlé français.
Je viens visiblement.
Je viens d'une famille francophone, mais pas que, si j'ose dire, en mauvais français.
Oui, parce qu'à à l'île Maurice, on ne parle pas que français.
Non, la langue officielle à l'île Maurice, c'est l'anglais.
Oui.
Et la langue maternelle de tous les Mauriciens, c'est le créole. Oui. Donc, chez moi, je parlais créole, je parlais français. Je parlais également, moins bien, mais je comprenais plusieurs langues indiennes, puisque je vivais, comme beaucoup de familles traditionnelles, avec mes grands-parents, et ma grand-mère et mon grand-père, parfois, me parlaient dans deux langues indiennes. En tout cas, je comprenais. Quand ils s'adressaient à leurs amis aussi, ils utilisaient cette langue-là.
Donc, une oreille particulièrement faite, polyglotte, vous êtes.
Oui, moins maintenant, je dirais.
Alors, à votre actif, plusieurs romans couronnés de très nombreux prix littéraires. J'ai été étonnée. Je vais en oublier, mais je...
Donc, vous étiez étonnée parce que...
Parce que vous en avez beaucoup et vous êtes jeune. C'est ça surtout. Non, c'est pour ça. Je pense à votre âge, au fait, parce que vous avez eu beaucoup de prix, romans, prix de la FNAC, prix des lecteurs de l'Express, prix culture et bibliothèque pour tous, prix Fondation Franco-Israël, prix de la ville de Caen. Ajoutez, dites-moi ce que je n'ai pas mis.
Écoutez, j'ai eu le prix Femina des lycéens, eu le prix France Télévisions.
Oui.
Le prix Anna de Noailles, enfin,
oui,
voilà.
Oui, vous voyez, je savais que ma liste n'était pas exhaustive. Voilà, mais revenons donc à votre nouveau roman, Rien ne t'appartient. Donc, dans un pays que je dirais paradisiaque, avec une population souriante et paisible, vous racontez l'histoire d'une petite fille malmenée, ravagée. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, Natacha Appana? Une expérience, une rencontre, une réflexion à la vue d'un article? Je ne sais pas, ça peut être...
Si vous me permettez, pour moi, il ne se passe pas dans un pays paradisiaque où les gens sont souriants et paisibles. Il me semble que ça, c'est un a priori dont on couvre ces pays lointains, ces pays dits de là-bas. Pour moi, ça se passe dans un pays multiculturel où les habitants parlent plusieurs langues, ont accès à plusieurs religions, forment plusieurs communautés et qui, sur le papier, pourraient être le pays rêvé parce que ils vivent sur une île. Alors, l'île a une nature, comme souvent les îles, une nature luxuriante, une nature très douce, une nature nourricière, mais une nature qui peut se retourner très facilement par des tempêtes, par des cyclones, par des raz-de-marée. Et les insulaires n'oublient jamais cela. Donc, j'ai imaginé un pays comme cela où, par la politique, par les choix, d'êtres humains, ce pays se retournerait contre ses propres habitants et voudrait leur imposer une langue et une culture. Et c'est au sein de ce pays-là que naît Tara et Vijaya. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, c'est un roman que j'ai imaginé depuis très longtemps, je dirais, plus de 15 ans. J'avais l'idée de l'histoire d'une femme qui perdrait sa mémoire après un accident, mais qui se retrouverait assaillie par une autre mémoire qu'elle a étouffée. Alors, j'avais ça, je n'avais rien d'autre. Je ne savais pas qui elle était, comment elle s'appelait, quelle était cette mémoire immédiate, ni de cette mémoire lointaine.
Comme une forme de schizophrénie, finalement, avec une double identité, presque.
On peut dire ça, c'est surtout... ça m'intéressait de savoir comment l'oubli nécessaire à un moment donné se désagréger après un certain temps. Et puis d'année en année, je continuais à écrire des romans, mais je revenais toujours à cette histoire-là. Et en 2005, je suis allée au Sri Lanka pour un reportage pour le magazine Géo. C'est un reportage sur comment les survivants, les victimes, pardon, du tsunami reconstruisaient leur vie. Et je me souviens d'être, je dis tombée, mais c'était vraiment ça. Ça rappelle le premier nom du Sri Lanka, c'est Serendipity. C'est comme un accident heureux sur un lieu avec des temples abandonnés où j'avais l'impression que ça, les temples luisaient de l'intérieur. Et je me souviens d'avoir pensé, tiens, ça, c'est un très beau décor. Et ensuite, à mesure que les années passaient, plus je grandissais, plus je vieillissais, ma vie changeait, mais je voyageais, j'écrivais, je lisais, j'avais l'impression que ce texte-là, presque dans les coulisses de mon écriture, dans les coulisses de ma chambre d'écriture, dans mon antre, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, dans mon atelier, il s'aiguisait. Lentement, très lentement, ce personnage de femme multiple a acquis plusieurs couches de sa personnalité, a acquis une enfance, a acquis une adolescence, a acquis une liberté de l'esprit et du corps. Mais ça, ça a pris vraiment des années.
À la mesure des strates qui se sont installées en elle.
Absolument, et également des strates, parce que je suis quelqu'un de très curieuse, mais également, je crois, très buvard de ce qui peut nous arriver dans le monde, proche ou loin de nous. Et je suis obsédée, on peut dire ce mot-là, par la place que nous occupons dans le monde, comment nous faisons du mal, comment entre nous 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 faisons du bien, quelle est la place des femmes. Et j'ai l'impression que ce livre-là, par exemple, dit beaucoup pas du statut de la femme, mais presque de sa place physique et morale dans la société.
Alors, ce qu'il y a qui happe le lecteur, c'est que c'est construit à la première personne, c'est-à-dire que c'est une femme qui nous parle dans la première partie. Il y a deux parties dans votre ouvrage. Dans la première partie, c'est une femme, on ne sait pas trop quel âge elle a, mais on le devine, puisque cette femme est veuve, que son mari était beaucoup plus âgé qu'elle, et c'est parler à la première personne, et ça d'emblée, ça nous plonge dans son intimité. C'est comme si on avait le journal d'une personne.
Je voulais vraiment instaurer, si vous voulez, au départ, le trouble, l'indistinction et également le sentiment que quelqu'un vous raconte son histoire au creux de l'oreille et que c'était au plus près, comme ce n'était pas une écriture au cordeau, mais c'était une émotion au cordeau. Ouais. Et j'avais vraiment l'ambition de faire ça, mais je dois avouer tout simplement que cette voix-là, VOX, ne m'est pas venue naturellement, enfin automatiquement ou en premier. J'ai beaucoup travaillé à savoir qui racontait cette histoire. Ouais. Comment la raconter et surtout l'endroit où le narrateur se trouve pour la raconter. Et j'ai choisi parfois un narrateur, j'ai choisi parfois quelqu'un d'extérieur à cette histoire-là. Et à chaque fois, j'avançais un peu, mais j'étais bloquée. Et c'est quand j'ai su que la narratrice, elle parlait vraiment comme si elle parlait de sa peau. Tout ce dont elle se souvient, d'ailleurs, c'est des choses extrêmement sensorielles, de ce qu'elle a goûté, de ce qu'elle a senti, de l'empreinte d'une caresse que sa mère laisse sur sa peau, de l'odeur des crayons dans le bureau de son père. Quand j'ai compris que c'était comme ça qu'elle parlait, à ce moment-là, ce jeu, cette intimité du langage est devenue pour moi nécessaire pour raconter cette histoire.
Et alors, on découvre le chaos dans son esprit, le chaos. Il y a un chaos dans son appartement, mais un chaos dans sa tête. Elle en est consciente. Et on sent un extrême désarroi. Alors ça, vous le faites ressentir d'une manière assez extraordinaire, je trouve. On la suit, elle... On a de la peine pour elle, franchement. On sent que tout, s'effiloche, qu'elle n'arrive à plus rien retenir. Et donc, elle ne peut pas, elle est consciente de ce qui se passe. Elle est intelligente, elle comprend, elle est consciente, mais elle ne peut plus réagir. Et alors, on s'interroge, on se dit, oui, il y a eu la mort de son mari. Bon, c'est terrible, c'est triste, c'est bouleversant, mais à ce point, on se dit, il y a autre chose. Parce qu'en fait, vous ne nous donnez pas les clés. Au départ, pendant la première moitié de l'ouvrage, on n'a aucune clé, mais il y a des petits indices quand même. Et c'est bien que vous fassiez travailler le lecteur un petit peu. Voilà, et alors on progresse pas à pas avec cette jeune femme, parce qu'il y a des tas de choses. Il y a ce jeune homme qui apparaît assis dans un fauteuil, on se dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Puis tout d'un coup, on comprend. On comprend que c'est une hallucination. Oui, mais on ne sait pas à quoi elle correspond. On le saura plus tard. Bon, il y a ce beau-fils dont elle espère et redoute la venue. On se dit pourtant pourquoi, puis d'autant que quand il viendra, il sera affectueux. Il sera indécis, mais en même temps essayant d'aider. Mais là aussi, on comprendra pourquoi elle en a peur. Elle dit à un moment donné, percevait-il mes efforts à ne pas me souvenir, à ne pas me confier? Alors ça, c'est une clé importante.
Oui, cette première partie, je l'ai imaginée comme la nuit de cette narratrice. Comme vraiment, ça commence au crépuscule, dans le clair-obscur de ce jour qui s'éteint. Et dans ce clair-obscur-là, elle va apercevoir d'abord le garçon, un garçon. Et la première phrase du livre, c'est ça d'ailleurs, oui. Le garçon est ici. Il y a, comme je disais, ce trouble, il y a également une sorte de, de flou. Dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle perçoit.
Ce qu'elle interprète.
De ce qu'elle interprète. Mais c'est un flou aussi qui est très lié au climat, dont on n'a pas les clés tout de suite, en effet. Parce que quand le livre commence, il a plu sans arrêt, sans discontinuer, depuis 3 semaines. Et tout est gonflé, distendu, l'eau déborde de partout, les choses dégorgent. Et c'est dans cette ambiance-là qu'elle se place, et dans cette ambiance d'humidité, de moiteur.
Un peu glauque.
De moiteur, mais de choses qui glissent, vous savez, des choses qui vous
qu'on
échappent.
Qu'on n'arrive pas à saisir.
Qu'on n'arrive pas à saisir tant elles sont humides. C'est dans cette atmosphère-là que, pendant sa nuit, cette femme-là va essayer de garder à distance ce qui remonte, comme quand une vague vous submerge, et quand elle s'en va, elle laisse toujours quelque chose derrière, et parfois ce n'est pas quelque chose qu'on désire affronter. Et pendant cette première partie-là, au fond d'elle, en réalité, elle sait.
Bien sûr.
Elle a, d'ailleurs, dès qu'elle a vu le garçon au début, c'est comme si le garçon était une sorte de manière de que la vérité
un élément déclencheur.
Déjà la mort de son mari a été un élément déclencheur, parce que il était la digue qui la protégeait de ce qu'elle avait vécu, mais le garçon est comme un peu la métaphore de la vérité. Est un peu la métaphore de « voilà, c'est le moment, c'est maintenant. » Et c'est maintenant qu'il faut y aller, qu'il faut être ce que tu es, ce que tu as toujours été, et ce que tu as mis de côté, mis dans une boîte, enfermé, étouffé, parce qu'il fallait résister, parce qu'il fallait continuer à vivre. Et dans cette nuit-là, elle va combattre ça. À chaque fois, elle va essayer de, quand elle a des moments de lucidité, quand elle retrouve son esprit, mais de quel esprit on parle, oui. Mais quand elle retrouve son esprit, ah, tout de suite elle se dit, oh là là, il faut que je range mon salon parce que mon beau-fils va venir, il faut que je fasse ça, il faut que je nettoie ça, il faut que je pense à qu'est-ce que je vais lui donner à manger. Et tout le temps, cet esprit-là lui joue des tours. Ce climat-là lui joue des tours et même son corps lui joue des tours parce que son corps, finalement, se souvient mieux que son esprit de ce qu'elle a oublié.
Oui. Et en même temps, justement, elle ne veut pas ouvrir la porte à cette fille. Et pourtant, elle sent qu'à un moment donné, je vous dis, elle pousse en moi contre mes flancs, elle essaie de s'insinuer. Et en fait, on s'interroge, mais pourquoi ne pas parler à son beau-fils qui a l'air si affectueux en final? Est-ce qu'elle n'en a pas la force?
Je ne sais pas si c'est une question de force ou c'est une question pour elle de dignité jusqu'au bout.
De dignité? De survie, non?
Parce que
de dignité, elle ne... oui, ça m'intéresse ça.
Parce que son beau-fils l'a toujours imaginée comme elle est là. Elle s'appelle Tara, une femme discrète, qui ne parle pas beaucoup, qui a certains rituels, qui se tient à distance, mais quand même se manifeste quand il faut se manifester, qui a beaucoup aimé son mari, donc le père d'Emmanuel, et elle voudrait, et c'est tout à fait ce qu'elle veut.
Garder cette image.
Voilà, elle ne voudrait pas qu'il y ait une autre image qui se superpose à ça, qui ait une autre vérité. Elle voudrait que ce beau-fils garde la même image que son père avant lui avait.
Ça signifie, j'extrapole un peu, ça signifie dans le fond qu'elle a un sentiment de culpabilité. Parce que si elle racontait ça, comment le...
Je ne crois pas que c'est un sentiment de culpabilité. Je crois que c'est quelque chose qui est tellement difficile qu'elle ne veut pas l'imposer. Elle ne veut pas l'imposer à Ellie comme elle n'a pas voulu l'imposer à Emmanuel. C'est quelque chose qui la dépasse. C'est quelque chose qui, dès qu'elle va la raconter, quand on raconte ces choses-là, qu'on va savoir dans la deuxième partie, elle en est changée et l'image qu'on a d'elle aussi en est changée. Et elle ne voudrait pas cela.
Non, alors voilà, et pourquoi? C'est ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'en définitive... Je crois que son mari aimant comprendrait et serait...
Mais c'est pardon, ça? Mais pourquoi il faut tout dire?
Bonne question, parce qu'elle, ça l'aurait délivré.
Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Ça l'aurait peut-être empêché d'avoir la vie qu'elle a eue pendant 15 ans. Et moi, je trouve que son mari a été merveilleux avec elle, parce qu'au fond de lui, il savait des choses, il sentait les choses, mais il l'aimait assez pour avoir la pudeur de ne pas lui demander directement. Moi, je ne crois pas qu'il faut tout dire. Moi, je ne crois pas qu'on peut forcer quelqu'un à affronter. On est dans cette société, il faut tout mettre sur la table. Non.
Non,
elle a le droit de garder ce qu'elle veut garder.
Mais peut-être... Non, alors... c'est ce qu'elle est, effectivement. Mais il me semble qu'avec ce mari aimant, ça l'aurait délivrée malgré tout. Ça l'aurait délivrée. Parce qu'elle a quand même regardé dans quel chaos elle se retrouve. Comme...
Mais là, vous voulez écrire un autre livre.
Non, je vous laisse ce talent.
Vous voyez, ce serait un autre livre à ce moment-là.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est ça. Et alors, on voit que sa vie, on devine que... la mort de son mari, ce protecteur, ce toit finalement qui l'a protégé, fait ressortir l'autre. L'autre fait ressortir en elle et elle en a peur, donc elle garde tout. Et on découvre aussi que, en fait, au cours de cet ouvrage, on découvre qu'elle va avoir plusieurs prénoms où elle n'en a aucun finalement. Elle a plusieurs prénoms. Et ça aussi, Quand vous dites que le titre « Rien ne t'appartient », même les prénoms ne lui appartiennent pas, finalement.
Oui, en réalité, il y a le prénom que son père lui a donné, lui a appartenu pendant les 13 premières années de sa vie. Et ensuite, tous les prénoms qu'elle a eus, et certains ne sont pas vraiment des prénoms, ce sont des surnoms qu'on lui jette dessus, vraiment comme des insultes. Et son dernier prénom, Tara, c'est un prénom qu'elle va habiter, qu'elle va incarner avec la force de son esprit et la force aussi de son désir d'être là, d'exister. Et en effet, parfois, elle est le vide même. Elle est le vide même parce que souvent, dans les grands moments de sa vie, pendant de longues périodes, on ne lui adresse pas la parole. On ne lui parle pas.
On est indifférent.
Plus qu'indifférent.
Plus, ouais.
Elle n'existe pas.
Non, elle n'existe pas.
Elle n'existe pas. Ah, c'est une chose qu'on a...
Une chose.
Une chose qu'on a jetée, même, parce que les choses peuvent être belles, comme dirait Pérec, mais elle, ce n'est qu'une chose. Et dans ces moments où elle n'est rien, où personne ne lui parle, personne ne l'appelle par son prénom, elle se souvient du prénom que son père lui a offert. Et d'ailleurs, dans son enfance, la grande richesse et complexité de son enfance pendant les 13 premières années lui permet, traverser beaucoup d'épreuves. Je ne dis pas qu'elle traverse intacte, qu'elle traverse la tête haute, c'est pas ça, mais de traverser quand même, de traverser ce tunnel et de sortir de l'autre côté.
Oui, justement, nous entrons dans la seconde partie parce que, en même temps, il y avait une expression, se souvenir des belles choses, les fleurs, les parfums, les guirlandes de feuilles de manguier, et puis ce bonheur à travers ses parents. Alors, c'était une vie délicieuse, une vie où elle était aimée, choyée, incitée à s'ouvrir à beaucoup de choses, dans une famille hors norme, je dirais.
Absolument. Hors norme et complexe, puisque son père était un opposant politique, quelqu'un de très lettré qui lui faisait l'école à la maison, et c'était difficile, hein, ce n'était pas l'école, tu ne viens pas quand tu veux, il faut se présenter à 7 heures devant le bureau et il faut travailler, qu'il a menacé gentiment en disant, si tu ne fais pas tes devoirs, attention, tu iras à l'école du village et là tu verras, on va te frapper, on va t'imposer une seule langue, une seule religion, tu seras comme toutes ces autres petites filles, bien dociles comme un bon petit soldat. C'est un père qui croit en la science, qui croit dans les faits, qui refuse qu'il y ait de la religion chez lui, qui refuse qu'il y ait la notion même d'une spiritualité, d'un mysticisme. Alors que sa mère, qui est une femme aimante, son père aussi est très aimant, elle se transforme pendant quelques jours du mois en une femme sorcière. Les gens viennent la voir parce qu'elle se met à lire dans les cartes, elle se met à lire dans les lignes de la main. Et cette petite fille-là naît et grandit et évolue et apprend entre ces deux mondes antinomiques, mais également entre... Et ce qui les rejoint, c'est l'amour.
Oui.
C'est l'amour et la grande tendresse, la grande liberté qu'offre la danse, qu'offre le jardin, la stimulation constante et permanente de son esprit.
Une grande richesse, foisonnement.
Voilà, et comme vous disiez, elle est encouragée à être ouverte à tout.
Oui. Natacha Appanin, nous faisons une pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, oh when he washed, he washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
was, when Jesus was, oh, when he washed my sins away.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
He taught me.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous ne sommes ni dans le pays, ni dans la musique de pays évoqué, mais écoutez, c'est quand même un beau gospel. Hein, vous êtes d'accord?
Oui, oui.
Voilà, alors nous entrons dans la seconde partie de votre ouvrage qui s'appelle, lui, Vijaya, puisque c'est le nom qu'avait cette petite fille entourée de ses parents dont vous avez parlé avant la pause musicale, des parents originaux c'est un foisonnement de culture, d'information, de vie, de dons. Elle développe une grande curiosité, une grande sensibilité également. Et puis, bon, il y a un drame, on ne va pas parler de ce qui se passe, on laisse au lecteur le soin de découvrir cela, et quelque chose d'extrêmement traumatisant. Et Vijaya, je pensais à... que souvent, en lisant votre ouvrage, je pensais à d'autres cas, d'autres enfants, par exemple ces enfants juifs, dont un petit garçon qui était dans un placard caché par ses parents pendant qu'on emmenait ses parents, vous voyez, à Paris. Y a tellement de cas où les enfants ont été témoins de catastrophes de ce genre. Et là, vous dites, elle absorbe les ondes. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Je voulais dire que même si elle ne voit pas ce qui se passe, elle sait ce qui se passe. Quand on est une enfant comme elle, entourée de parents comme elle, quand malgré en effet, elle a une enfance complexe, mais elle a une enfance finalement très solitaire. Elle est seule. C'est la seule enfant. Elle ne connaît personne.
Elle n'a pas de copains.
Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de cousins, elle n'a personne. Donc, il y a quand même une sorte d'austérité autour d'elle, quand même, malgré la musique, malgré les jolies choses. Il y a une austérité. C'est une austérité qui est provoquée par le sérieux de son père, par le contexte qui se ressent chez elle. Et... quand il lui arrive ce qui lui arrive, quand elle sent les ondes, c'est tout cela qui se met en place. Et je voulais dire combien, parfois, ne pas voir est plus terrible que voir. parce que ça nous laisse cette longue page blanche pour imaginer les choses les plus terribles, pour entendre les choses les plus horribles. Et elle est là, seule, et elle perçoit, elle ne fait que percevoir. Et toute sa vie, elle ne fera qu'imaginer ce qui se passe de l'autre côté.
Tout en ayant en arrière-fond tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a appris à ressentir aussi de par l'éducation familiale.
Bien sûr. D'ailleurs, elle ne l'oubliera jamais, cette éducation.
Ah, alors là, je me suis posé la question. Non, je me suis demandé si ça n'était pas revenu à la mort de son mari.
Non, même quand elle se retrouve, à un moment donné, elle se retrouve plusieurs fois, hein, quand elle est recueillie par le jardinier, quand elle est...
Là, oui, oui, effectivement, c'est récent.
Et quand elle est au refuge... Oui. Elle n'oublie pas n'oublie pas l'essentiel. Souvent, par exemple, elle dit une ou deux fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que...
Voilà, et oui, alors c'est ça qui est troublant, c'est pour ça que je me disais, il y a quelqu'un qui m'a dit. Alors est-ce qu'elle ne nomme pas ce quelqu'un, c'est son père? Est-ce qu'elle ne le nomme pas pour ne pas souffrir encore?
Pour moi, c'était ça.
Oui.
Parce qu'il y a certaines choses qui sont difficiles à dire. Même, vous savez, à prononcer sur le bout de la langue. Il y a une expression que j'aime bien, c'est faire rouler un mot sur la langue. Et littéralement, ça, c'était difficile pour elle. Donc, pour mieux l'éloigner, mais pour ne pas oublier ce qu'il lui avait montré, appris, elle dit, il y a quelqu'un qui m'avait dit autrefois que les lianes poussaient comme ça, que les dieux n'existaient pas. Et c'est étrange parce que elle continue d'une certaine manière son éducation, parce que parfois elle dit, mais moi je n'y crois pas à ça, moi j'ai la preuve que ce n'est pas vrai. Même si son père n'est plus là avec elle, elle continue ce qu'elle aurait fait. Elle se serait opposée à lui, elle l'aurait confronté dans, comme lui il a confronté tant d'autres au niveau des idées.
Alors, elle va être confrontée à, moi, je dirais la bêtise, mais peut-être que la malveillance, en tout cas, même une forme de trahison de la part de Roy, celui au roi, je ne sais pas comment vous...
Oui, il ne faut pas trop en dire.
Oui, on ne va pas dire, on ne va pas dire, non, il ne faut pas dire. Mais quand même, ce qu'on retrouve quand même, les superstitions... ou alors des habitudes que l'on retrouve dans tous les pays, des habitudes de pensée, les gens ne remettent pas en question, c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement, voilà. Et puis elle va apprendre ce qu'est une fille dans ce pays. Alors là, j'avais noté justement, est-ce que vous acceptez de lire un extrait?
Bien sûr.
Alors la page 73, et puis vous arrêtez au mot amour, c'est un beau...
Jamais personne ne m'a expliqué ce que c'est qu'être une fille dans ce pays. Personne ne m'a dit « Attention à la manière dont tu cours dans la rizière en agitant les bras comme si tu voulais t'envoler. Ne chante pas comme ça tous les matins quand tu te réveilles. Prends garde au sourire que tu offres à n'importe qui. Ne t'allonge pas sur la véranda à côté du chien pour écouter aux portes quand les gens viennent voir ta mère. Ne t'assieds pas tous les soirs sur les genoux de ton père. Ne lave pas les cheveux près du puits sans te préoccuper de qui peut te voir. Ne vole pas l'huile de groseille des bois dans l'armoire de ta mère pour t'en enduire la chevelure. Ne ris pas à gorge déployée quand tu joues à la belote et que tu gagnes. Ne te mets pas à danser quand ta chanson préférée qui parle d'amour et de chagrin passe à la radio. Et surtout, ne ramasse jamais, jamais une fleur de frangipanier fraîchement tombée pour la mettre derrière ton oreille. Personne ne m'a dit que sur le chemin, au-delà du jardin, de la rangée de bananiers, au-delà de la rizière, il y a des gens qui regardent comment grandissent les filles, qui surveillent leur poitrine qui pointe sous le chemisier, leur taille qui se creuse, leurs hanches qui s'arrondissent. Personne ne m'a dit que j'étais stupide quand je prétendais qu'un jour vraiment, il me pousserait des ailes et que je m'envolerais libre comme un oiseau. Personne ne m'a dit qu'il fallait désormais danser avec moins d'envie, moins de passion, qu'il serait bon d'enlever les grelots, le rouge aux lèvres, le noir aux yeux et que le samedi de la fête après carême, il serait plus sage de jouer le rôle de paysanne ou de villageoise au lieu de celui de l'élu, dont la bouche est close, mais dont le corps mime toutes les langues de l'amour.
Elle a compris que tout ce qu'elle avait pu faire, su faire, appris, devait être remis en question.
Oui, elle a enfin compris que ce qu'elle avait vécu pendant les 13 premières années était foulé aux pieds. Elle a compris que ce qui se passait à l'extérieur de son enfance, littéralement, comme si son enfance était un pays et qu'il y avait un étranger, des étrangers, des soldats, des malveillants autour de ce pays-là, elle avait compris qu'elle était sortie de ce pays-là et qu'elle devait maintenant réapprendre autre chose. Et dans ce chapitre, ce long passage, si elle continue un peu comme ça, c'est un peu une adresse à ses parents. C'est une adresse pour dire « Vous auriez dû m'avertir. Vous auriez dû me dire comment sont les choses. »
Oui, il y a un passage très troublant, je trouve. À un moment donné, elle dit quelqu'un, elle a oublié que c'était son père, ou elle ne le dit pas. Je retrouve. Elle dit, quelqu'un m'avait dit que les dieux et les temples étaient l'invention de ceux qui ne croyaient pas en la science, mais qu'en savait-elle réellement, cette personne qui aimait ouvrir grande sa bouche, ça c'était l'expression qui avait déjà été utilisée, et qui n'avait pas écouté quand on lui avait dit qu'elle mettait sa famille en danger. Peut-être que ces endroits-là, où des hommes et des femmes viennent rendre grâce à des êtres imaginaires, offrent ce que la science ne peut pas donner. Tout d'un coup, elle remet en question ce que lui a inculqué son père. Ça aussi, c'est troublant.
Oui, c'est pour elle, en tout cas, elle voit bien que tout ce que son père lui a appris...
Et battu en brèche.
Ne suffit pas, ouais. En tout cas. C'est pas et battu en brèche, mais vraiment ne suffit pas. Ne suffit pas, en tout cas, pour lui donner les armes de vivre la vie qu'elle a à ce moment-là. Puisque si elle avait eu la vie de ses parents ou la vie de sa prof de danse, Radha, tout se serait bien passé. Elle aurait eu les armes pour, elle aurait eu l'éducation, l'esprit pour. Mais comme sa vie est bouleversée, elle n'a plus rien. Donc, et comme c'est une fille qui a été habituée à la solitude... Elle trouve encore, dans la deuxième partie de sa vie, de la nourriture dans cette solitude-là. Souvent, elle cherche des moments où elle se retrouve seule. Elle se lève beaucoup plus tôt que les autres pour être dans un endroit qu'elle aime bien. Et dans cet endroit-là...
Justement, c'est petit temple.
Oui, elle réfléchit. Mmh. Elle réfléchit et je trouve ça assez formidable de pouvoir réfléchir aussi librement qu'elle. D'une manière d'une manière tellement sans entrave. Et là, à ce moment-là, elle est véritablement la fille de son père.
C'est vrai. Je contourne de bâtiment et je cours jusqu'aux marches du petit temple dans la cour. C'est mon préféré. C'est celui qui a été le plus profané par les hommes, le plus endommagé par le temps. C'est aussi celui qui semble être lentement avalé par la nature. Il se presse dans la forêt, il s'affaisse sur le sol. Je me dis qu'un matin, je me lèverai, il ne sera plus là. C'est un peu elle. Quand elle dit, c'est celui qui a été le plus profané.
Je ne sais pas si elle a... Elle a cette... l'impression de se regarder dans le miroir, mais... Elle sait que cet endroit-là est un endroit... elle fait de cet endroit si terrifiant d'une certaine manière, parce qu'il y a des trous partout, parce que tout pousse.
Il y a des plantes qui s'insinuent.
Oui, voilà, qui peut être assez effrayant, même, pour dans le clair-obscur. Eh bien, elle trouve la force de faire de cet endroit un, peut-être le nom est un peu fort, mais un foyer. De faire de cet endroit-là une enclave.
C'est à elle.
C'est à elle. Elle décide que cet endroit-là est à elle. Et qu'ici, elle va cacher, je ne vais pas dévoiler, mais ce qu'elle va cacher, elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Et ici, elle peut déployer une pensée, déployer une réflexion. Je trouve que ça, c'est ces moments-là où on se rend compte de la grande force morale qu'elle a, de la grande résistance et de la grande résilience qu'elle possède, cette fille-là, cette femme-là, cette jeune fille-là, à toujours avoir la capacité de puiser en elle, dans son cœur, dans son corps, dans ses tripes, mais également dans son esprit, l'énergie, et également à ouvrir les champs de possibles, si vous voulez. Elle ne se contente pas de ressasser, au contraire, elle continue à prendre, par exemple, ce que son papa lui avait enseigné, à apprendre cet enseignement-là, et à essayer de le décortiquer, de le tirer comme ça, avec le quotidien qu'elle a.
En vous écoutant, je me dis, ce qui doit rendre encore plus inconfortable, le mot est faible, sa vie avec des personnes, je pense à Ama, Roy, qui sont plutôt frustes, et elle qui comprend tellement de choses, justement. Il y a une césure totale. En tout cas, à travers Tara, moi, je dirais que finalement, en lisant votre ouvrage, j'ai pensé aussi à toutes ces petites filles qui deviennent des femmes, toutes ces petites filles de par le monde actuellement. Alors, je ne sais bien, c'est pas, vous n'êtes pas, vous voulez pas être le porte-parole de la condition féminine, mais quand même, il y a quand même une compréhension peut-être très intéressante de la construction d'une femme à travers ce portrait que vous faites.
Vous voyez, Monique, si je peux me parler, Monique, mais j'étais à la fois triste et étonnée et bouleversée quand on prend la peine de lire de le passé, l'histoire. On prend la peine de s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. On se rend compte combien les choses stagnent pour les femmes ou même reculent. J'ai l'impression de dire un cliché total, mais...
Mais il faut le rappeler, ce cliché.
Et c'est assez terrifiant, par exemple, dans ce... C'est pour ça, au début de notre entretien, je disais, bien sûr, il est librement inspiré du Sri Lanka, mais ce n'est pas que le Sri Lanka, parce qu'à un moment donné, Vijaya se retrouvera dans un refuge pour filles gâchées.
Ah.
Pour jeune femme mal tournée, je ne sais pas comment dire ça. Et j'ai beaucoup lu dessus, et parfois j'ai l'impression que tout ce que je lisais me ramenait à ça. Et c'était assez terrifiant de voir que ça fait des siècles, dans tous les pays, toutes les cultures, toutes les religions, toutes les organisations sociales même, malgré l'industrialisation, malgré tout ce qu'on appelle le progrès, on a toujours trouvé ou construit un endroit où parquer les filles. Parce que selon les sociétés, selon les règles, selon les normes, ces filles-là ne se comportaient pas comme il fallait. Et donc il fallait un endroit pour elles. Il y en a en Irlande, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y en a partout.
Et quand on pense qu'il y a un progrès, il y a un retour en arrière.
Tout le temps. Il y a comme à chaque fois, c'est quoi l'expression ? Un retour de bâton. Et c'est vrai, et vraiment, ça fait mal comme un coup de bâton. Et je trouve que tout le long de l'écriture de ce roman, le contour du corps de la femme, d'une femme, en tout cas de celle-ci, ne m'a jamais quittée. Comment elle occupe sa place, comment elle sculpte même sa place, et comment, avec la place que l'autre, la société lui octroie, elle arrive à en créer la sienne. Prenons les prénoms, par exemple. Jamais elle ne renie les prénoms qu'elle a eus. Parce que de ces prénoms-là, de ces insultes-là, elle va en faire un carcan, elle va en faire quelque chose dans lequel elle pourra, elle, s'épanouir. Puisque vous m'insultez comme cela avec ce prénom, et bien de ce prénom,
je vais le porter.
Je vais le porter et je vais en faire une force.
Oui. Eh bien, écoutez, merci Natacha Panna pour ce très beau livre que j'incite nos auditeurs et nos auditrices à lire. Paru chez Gallimard, rien ne t'appartient, rien ne lui appartient et tout à la fois. Elle a l'intelligence, l'ouverture et puis le charme parce qu'elle a quelque chose en elle, elle est multiple aussi. Un grand merci.
Merci à vous. Au revoir.